suffit pas. Même la ministre elle-même a dit que c'était pas satisfaisant et que il fallait aller beaucoup plus loin. C'est pas en tout cas c'est pas une réussite sur laquelle on peut s'appuyer pour considérer qu'il est nécessaire de continuer à se rapprocher. Je crois pas une seconde.
Il y avait donc un appel à la grève pour aujourd'hui, jeudi 23 et demain, vendredi 24, puisque c'était aujourd'hui et demain ou demain que le texte, le projet de loi de fusion devait être étudié à l'Assemblée nationale. Alors, c'est pas sûr que ce le soit pour des questions de calendrier, d'agenda, mais ça fait quand même tout de même un premier test pour vous. Comment on dit que la mobilisation est assez suivie aujourd'hui? Comment vous le sentez autour de vous là?
On voit très clairement une mobilisation quasiment inédite à Radio France. Aujourd'hui, vous avez certainement pu entendre, les auditeurs ont pu entendre, ceux qui sont n'écoutent pas que la clé des ondes ont pu entendre que France Inter, France Info, France Culture, France Musique, d'autres étaient en grève. France Bleu Gironde l'était ce matin. Les chiffres sont difficiles à donner, mais on a au moins les deux tiers des France Bleu qui ont été grévistes sur la matinale, ça se poursuit. On a aussi des modalités de grève qui sont un petit peu particulières. L'objectif était pour nous de mobiliser un maximum de monde. Il y a des gens qui peuvent faire grève 1 heure et qui sont considérés comme grévistes, et c'est très important pour nous. On ne dispose pas à cet instant, au moment où on parle, des chiffres précis de la mobilisation, mais pour moi, c'est totalement inédit et c'est une mobilisation absolument colossale. On a pu, là, il se trouve que je suis à Paris pour le rassemblement qui est prévu devant le ministère de la Culture. On a vu en Assemblée générale hier à Paris qu'il y avait énormément de salariés qui étaient mobilisés, pour tout vous dire, même des membres de la direction. La direction nous pousse à être grévistes et à manifester la désapprobation des salariés pour bien montrer aux parlementaires et au gouvernement l'opposition très importante des salariés de l'audiovisuel public. Du côté de France Télévisions, je pense qu'on est à peu près au même niveau, hein. Il y a eu des programmes dégradés, ça va continuer tout au long de la journée. Donc très clairement, l'immense majorité, voire plus que ça, des salariés de l'audiovisuel public sont opposés à cette fusion. On a nos camarades de l'INA qui sont pas très loin de nous à la maison de la radio, certains, et qui sont venus nous voir et qui disent à quel point aussi ils sont inquiets pour leur avenir et pour une réforme qui n'est absolument pas maîtrisé sur son contenu. Il y a beaucoup de questions qui ne trouvent absolument pas de réponse sur la manière dont nos sociétés pourraient fusionner. Et je le dis par rapport à l'INA, il y a des questionnements par rapport à France Média Monde, France 24 et autres, et RFI, qui sont des questions extrêmement importantes et pour lesquelles le gouvernement n'a pas de réponse. Donc on a le sentiment d'une réforme qui est menée au pas de charge par la ministre Dati. Sans concertation véritablement d'ailleurs avec les parlementaires, hein, peut-être qu'ils manifesteront, et on l'espère, leur désapprobation devant une réforme qui est mal ficelée, qui n'est pas terminée et qui va poser d'extraordinaires de problèmes et des problèmes sur le plan, pas uniquement des conditions de travail des salariés, hein, même si ça m'occupe beaucoup, mais sur le plan de la démocratie et de la pluralisme et du pluralisme dans la société française.
Justement, alors peut-être pour imaginer comment est-ce que vous, nous, collectivement, on pourrait faire reculer ce projet de fusion. Il y a ces 2 jours de grève, c'est quoi la suite? Et est-ce que, ou comment cette bataille pour un service public de l'information, elle peut fédérer non seulement les professionnels que vous êtes, mais aussi le public, les auditeuristes, les spectateuristes? On l'a vu peut-être récemment avec ce qui s'est passé à France Inter, les annonces d'émissions de suppression, où il y a eu quand même une mobilisation aussi sur les réseaux sociaux, etc., des auditeurs, auditrices de l'émission de Charlie Van Ecker avec Guillaume Meurice, aussi de l'émission La Terre au Carré, avec une mobilisation qui a, j'ai l'impression, permis de permettre le maintien d'une partie de l'émission qui allait être sucrée. Enfin bon, tout ça est encore en projet, mais voilà, quel enjeu peut-être il y a derrière ce truc-là de l'alliance entre les professionnels et le public, Julien?
C'est vrai que là, on est sur une très vaste question. Il se trouve que ces actualités se percutent, mais en effet, moi, je pense qu'on peut trouver une ligne directrice qui est la question de l'indépendance face au pouvoir. Nous, on a le sentiment, en effet, ensuite très près l'affaire Guillaume Meurice, on a le sentiment que la direction de Radio France ne fait que répondre, là encore, aux injonctions gouvernementales de faire taire cette voix dissonante. C'est une personne qui est ciblée par le gouvernement comme étant une opposante et quelqu'un qu'on veut faire taire. Radio France y répond de la manière la plus brutale possible en traînant dans un processus disciplinaire un humoriste à qui on ne peut reprocher que d'avoir fait son métier, c'est-à-dire d'avoir fait rire. Mais là, on a la patte d'un gouvernement qui ne supporte plus la critique, et puis aussi, évidemment, le lobbying du privé qui veut faire taire ce qui apparaît aujourd'hui comme étant des voix divergentes. Et voilà, faire taire des voix de gauche, tout simplement, hein. Ça, je pense qu'on peut le dire. Donc, on est dans un mouvement global, et la fusion de l'audiovisuel, pour nous, va en effet dans le même sens. Alors, comment, pour répondre à ta question, comment essayer d'associer au maximum ben, les citoyens français, hein, globalement, qui veulent avoir la liberté d'écouter un service public pluriel et de qualité, et des groupes privés s'ils le souhaitent. C'est une vraie question. On a eu énormément de courriers qui ont été adressés à la direction de Radio France, à la médiatrice de Radio France. C'est toujours une solution d'envoyer des courriers pour exprimer le désaccord et la volonté de préserver cette parole libre sur le service public audiovisuel. Après, le débat. Les conséquences sur cette réforme de l'audiovisuel, qui va l'adapter, c'est bien les députés de l'Assemblée nationale et les sénateurs. Donc, moi, j'encouragerais tous les auditeurices qui souhaitent affirmer leur volonté de préserver un audiovisuel public de qualité, de s'adresser directement à leurs députés, à leurs sénateurs de proximité et leur dire leur attachement.
Merci beaucoup, Julien Collin.
Avec plaisir.
Voilà Julien Collin, donc, qui est technicien à France Bleu Gironde et délégué syndical à Sud Radio France. On rappelle cette grève aujourd'hui à France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA, qui se poursuivra demain et qui devrait avoir des suites pour arriver à faire reculer le gouvernement et le ministère de la Culture sur ce projet de loi. On en reparlera bien sûr sur la clé des ondes tant qu'il le faudra. Midi 17, vous écoutez le plat de résistance sur la clé des ondes et on s'intéresse maintenant au Festival des Fiertés. Festival des Fiertés en Nouvelle-Aquitaine et à Bordeaux qui a commencé le 4 mai dernier et qui se poursuit jusqu'au 30 juin. Il est organisé par le Girophare et ses partenaires avec notamment l'événement phare habituel qui est la Pride qui aura lieu le 1er juin prochain. On va y revenir avec nos deux invités aujourd'hui en studio. Bonjour à vous, Kurt et André.
Bonjour.
Bonjour.
Kurt, tu es salarié du Girophare, le centre pour les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, non-binaires et leurs alliés de Bordeaux. Et puis, il faut signaler quand même que tu animes aussi l'émission La MIF sur la clé des ondes une fois par mois à peu près.
Exactement.
Et dont la prochaine sera lundi prochain.
Oui, d'ailleurs. Retrouvez-nous.
Et André, toi, tu fais partie de l'association ANCRE, ANCRE, A-N-C-R-E-S, au pluriel, association d'entraide par et pour les personnes trans, ça veut dire quoi, ANCRE, André ?
ANCRE, c'est l'acronyme de ADELF, non cisgenre, rencontre, entraide et soutien. Et pour celles et ceux pour qui ça serait quand même un peu obscur, ADELF, c'est un terme épicène, donc ni masculin ni féminin, qui désigne les frères et sœurs. Et cisgenre, c'est l'inverse des personnes trans, donc les personnes qui se retrouvent dans leur genre de naissance.
Très bien, merci pour ces précisions. Je disais, ce Festival des Fiertés, il a déjà commencé donc au début du mois de mai. Et dans mon souvenir, il était un peu plus court. Enfin, je ne sais plus trop comment c'était les autres années, mais c'était moins étendu dans le temps. Peut-être pourquoi ça a été allongé comme ça sur toute cette période de 2 mois, Kurt ?
Parce qu'on essaye de faire une année des fiertés ensuite. Donc, mois par mois, on en rajoute. Non, c'est parce que... Donc, en général, on ouvre le Festival des Fiertés avec le Village des Fiertés, qui est un village associatif où on se retrouve, Placette Dominique. Et ça tourne plutôt autour du 17 mai. 17 mai, qui est l'IDEOT, Journée internationale de lutte contre les LGBTI-phobies.
Qui a eu lieu vendredi dernier.
C'est ça. Et le truc avec mai cette année, c'est qu'on a eu beaucoup de ponts. Et que dans l'idée de fédérer, on s'est dit qu'on allait le mettre le 4 mai. Plutôt que le dernier week-end avant la Pride aussi pour pas trop charger. Donc voilà. Voilà pourquoi c'est un super long festival.
Donc ça a commencé par ce village des fiertés. Il y a eu d'autres choses. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui s'est déjà passé depuis 3 semaines, André ?
Ouais, donc on a ouvert le festival avec le Village des Fiertés. Et en fait, cette année, la particularité, c'est quand même que ce mois des Fiertés coïncide avec une actualité politique très vive pour nous, puisqu'on a eu coup sur coup en avril la sortie d'un livre ouvertement transphobe et de deux propositions de loi, une par les Républicains et une par le Rassemblement National, pour interdire toute transition, qu'elle soit sociale ou médicale, pour les mineurs trans. Et ces propositions de loi s'appuient aussi sur un rapport sénatorial des Républicains. Et donc de ces actualités ont découlé une mobilisation qu'on peut qualifier d'assez historique dans les luttes trans, puisque le 5 mai, il y a eu une coordination nationale pour organiser des rassemblements dans une cinquantaine de villes en France, qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes. Et à Bordeaux, on a continué cette mobilisation en utilisant la date, justement, comme on le disait, cœur du 17 mai, de la Journée internationale des luttes contre l'LGBTI-phobie, pour organiser un second rassemblement. Et ça a été des moments assez forts, qu'on rassemblait plusieurs centaines de personnes à chaque fois sur Bordeaux, et qui ont aussi été des lieux d'expression publique, où des personnes ont pu prendre la parole. Donc ça a été des moments de communauté forts pour nous.
Ça veut dire que pour vous, ces attaques-là, cette médiatisation quand même d'un discours, en l'occurrence transphobe, c'est plutôt des choses qui, in fine, permettent de se rapprocher, de faire lien, de faire communauté, comme tu disais, Kurt ?
On le voit que c'est pas nécessaire pour nous de faire communauté autour de ce genre d'actualité, mais on le voit, c'est vrai. Et c'est ce qui s'était déjà passé au moment des attaques de 2022, où justement...
Attaque contre la Pride,
donc attaque par des fascistes. Et en fait, juste après, il y avait eu l'attaque de Saint-Michel, donc toujours par les mêmes fascistes. Et en fait, pareil, en termes interassociatifs, ça nous avait beaucoup soudés, donc autour du collectif Antifara. Et là, ça nous a...
Antifara pour antifasciste, antiraciste.
Exactement. Et là, ça nous a ressoudés autour donc, du collectif Riposte Trans et Féministe, donc en réaction à cette actualité. Mais on n'a pas besoin de ce genre d'actu, vraiment.
Mmh. André, tu voulais ajouter un mot ?
Donc pareil, la même chose.
Et bah justement, je voulais vous demander, c'est vrai qu'on a un peu ces deux sentiments simultanés et opposés que résumait bien Tristan, donc qui est aussi salarié au Gyrophare, dans une petite interview, qui disait le Gyrophare, comme d'autres associations, est de plus en plus sollicité pour intervenir dans des assos, des collectivités, des entreprises, et en même temps, les agressions homophobes, transphobes, LGBTQIAP+, phobes en général, elles sont en augmentation. Comment vous percevez, vous, ces deux phénomènes-là qui se passent en même temps ? Est-ce que ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de la société dans laquelle on est et de ses évolutions, Kurt ?
C'est un retour de bâton. On sait que quand on visibilise un sujet, forcément, il y a une grande partie de l'opinion. Donc, l'opinion publique, qui est plutôt silencieuse, mais qui est d'accord, et justement, qui cherche à se renseigner, à approfondir, parce que souvent... Apprendre, comprendre, c'est accéder à aimer, apprécier ou au moins ne pas détester ou ne pas haïr. Et du coup, c'est pour ça qu'on intervient de plus en plus, parce que si on comprend à quel point ça joue dans la santé mentale des personnes LGBT, que leur entourage, d'avoir des alliés. Donc c'est essentiel que l'information soit diffusée. Mais en parallèle, l'idée que il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits autour de l'information. On voit que souvent les techniques, justement, c'est de retirer l'information pour pouvoir mentir autour et de faire de la désinformation. Et du coup, ça leur plaît pas qu'on puisse créer quoi que ce soit de pédagogique. Et en plus de ça, la violence. Enfin, il y a quand même dans l'espace médiatique des propos de plus en plus violents. Notamment sur certaines chaînes et par certains politiques. Et en fait, vu que c'est complètement décomplexé, que ça a pignon sur rue, les individus aussi qui se disent finalement, ouais, ça tombe sous le coup de la loi, la transphobie, les LGBTI-phobies en général, mais est-ce que c'est vraiment appliqué ? Et puis, je suis peut-être dans mon bon droit. Je pense que pour LE, c'est presque de la désobéissance civile. Donc, c'est se dire si on se réapproprie des concepts. Mais du coup, il y a ce besoin et il y a aussi vraiment une organisation, un noyau dur. Donc, ils sont peu, mais par contre, ils se radicalisent, ils sont de plus en plus violents. Je pense que...
Mais ils peuvent apparaître, donner l'impression d'être nombreux. C'est là où peut-être il faut faire attention à ne pas se méprendre aussi sur ce qu'ils représentent. André ?
Ouais, c'est ça. Ils veulent. Enfin voilà, on constate qu'il y a une présence très importante des discours transphobes dans les médias, notamment des deux autrices du livre Transmania. Et ouais, ça, je voulais appuyer ce que disait Kurt sur le fait que c'est la présence de ces discours transphobes complètement décomplexés qui derrière légitime le fait que les débats porte sur nos existences mêmes en réalité et que ça soit ça qui soit questionné. Et nous c'est vraiment ça qu'on constate et le travail de désinformation dont Kurt parlait, il est présent jusque dans les rapports sénatoriaux. Par exemple, ce rapport qui porte principalement sur les transitions médicales des mineurs, sur quand on va à la partie source chiffrée, le chapitre s'ouvre sur le fait qu'il n'existe pas de chiffres officiels et sûrs sur le nombre de mineurs en France qui ont accès à des transitions médicales. Pour après, dans le paragraphe suivant, nous dire que c'est un problème de société, que c'est une épidémie, que on transgenrise les mineurs, que c'est un problème global. Alors même que les auteurs-autrices du rapport admettent qu'il n'y a pas de chiffres. Il y a une raison pour laquelle il n'y a pas de chiffres, c'est qu'il y a très peu de transitions médicales en France et que c'est en réalité plus un problème dans ce sens-là.
Ok. Sur la désinformation dont vous parliez, c'est je ne sais pas si on peut dire, c'est quoi les principaux trucs, alors tu en as mentionné un, mais sur lesquels il y a de la désinformation, et surtout comment est-ce qu'on peut se réinformer, en tout cas s'informer correctement sur cette situation. J'imagine que Ancre, c'est une partie de votre taf, le Gyrophare aussi, sur tout ça. Kurt ?
Moi, je pense que de notre côté, c'est l'image, ce qu'on nous fait porter. Donc déjà, il y a une hypersexualisation de toutes les personnes LGBTQIA+. Et l'idée que on serait moteur de cette hypersexualisation, que c'est notre but, hypersexualiser la société, les enfants, les gens, tout ce qui s'y passe pour que les bonnes mœurs ne soient pas respectées. Donc il y a cette première étape d'hypersexualisation qui questionne. Et l'idée aussi qu'on est un lobby et que notre but dans la vie, c'est non pas de se faire respecter pour qui on est ou qui on aime, mais de convaincre tout le monde que notre modèle de société est le bon. En fait, c'est une rhétorique en miroir, vu que c'est ce qu'elles utilisent. Forcément, c'est ce qu'on applique sur nous, notre volonté. Alors que notre volonté, c'est que les gens comprennent.
C'est ça. Ouais. Et l'autre argument qu'on voit beaucoup, c'est celui de la protection de la famille et des enfants. Et qui prétendrait que voilà, nous, on serait là pour dégénérer les enfants. Et semer le trouble dans leur identité et voilà qu'on serait la cause du fait que les enfants ne puissent pas être normaux, alors même que notre constat, il est assez simple, qui est que toutes les personnes LGBTQIA+ adultes ont un jour été des enfants et que notre but, c'est que les enfants puissent se passer dans la liberté, dans le questionnement, et que ces questionnements puissent être libres et accompagnés.
Et tout ça, effectivement, c'est effectivement le discours porté par pas mal de collectifs d'extrême droite qui sont présents, y compris sur Bordeaux. Je rappelle cet événement qui s'était passé fin février, au moment où un stage devait avoir lieu à la MJC Clal à Mérignac, un stage de drague pour les enfants, où justement il y avait tous ces fantasmes de « vous allez hypersexualiser nos enfants », enfin tout ce que tu as dit tout à l'heure, Kurt. L'extrême droite avait fait tout un ramdam sur Internet. Et là où ça devient dangereux, c'est que l'État avait fini par prendre fait et cause pour ce discours-là et faire pression sur la MJC pour que ce stage soit annulé. Y a en plus de tous les enjeux que vous avez énumérés, il y a celui-là aussi de comment l'extrême droite faire pour qu'elle n'arrive pas à s'immiscer dans les endroits de pouvoir où il y a de l'argent, où il y a des autorisations pour faire des choses, continuer à faire ce que vous faites au quotidien. C'est un combat que vous avez aussi en tête et sur lequel vous commencez à vous pencher, Kurt ?
On l'a très fort, hein. Enfin, l'extrême droite nous inquiète dans sa manière de s'être insinuée dans tous les lieux de pouvoir, parce que l'extrême droite y est déjà. Enfin, on le voit que là, on a un gouvernement qui fait juste la courte échelle à l'extrême droite, à travers plusieurs techniques que je ne vais pas énumérer et qui ont certainement déjà été soulevées sur la clé des ondes. Effectivement, ça nous inquiète. Ça nous inquiète le fait qu'on ne va pas avoir les mêmes marges de liberté et d'action donc pour cette pédagogie. En parallèle, on a quand même... On a accès aux écoles, mais à partir d'un certain âge. Mais je pense que c'est comme ça autour de tout ce qui est question de vie affective aussi. Et moi, ça me questionne sur le fait qu'on ne veuille pas apprendre aux enfants, par exemple, ce qu'est le consentement. Enfin, je veux dire, ça fait partie aussi d'une boucle où on n'a pas envie de dire aux enfants, bah, ton corps, c'est ton corps et t'en fais ce que tu veux. Et je trouve ça inquiétant parce que ça pose le questionnement de comment les adultes agissent avec les enfants. Et notamment ces systèmes de pensée. Bon, j'ai un peu digressé là.
Non, mais effectivement, c'est pas qu'une question de LGBTQIAP+, c'est aussi juste une question d'éducation affective, sentimentale, qui est quelque chose qui coince à plein d'endroits dans la société.
La place de l'enfant, même d'une manière générale, pourquoi c'est l'enfant qui est toujours amené au cœur de nos thématiques et qui soulève justement toute cette opprobre? C'est parce que l'enfant, il est considéré comme un sujet. Il n'a pas le droit de parole, il n'est pas censé comprendre ce qui se passe autour de lui. Bah, l'enfant, en fait, si, il comprend. Il y a même une charte des droits des enfants. Enfin, et tout ça, ce n'est pas du tout respecté. On commence à peine à titiller l'idée que l'éducation peut être violente et qu'on doit s'améliorer là-dessus. Et qu'on doit... nous, on est là pour filer des clés à la jeunesse. Donc, heureusement, il y a encore plein de programmes qui existent pour filer ces clés à la jeunesse. Et on voit aussi que la jeunesse a de plus en plus de représentations. Enfin, il y a les réseaux sociaux où on trouve à boire et à manger, bien entendu. Mais quand même, il y a de plus en plus d'infos. Mais pour revenir notamment au cas de la MJC, encore une fois, c'est aussi la violence des propos de l'extrême droite. C'est quasiment toujours des menaces de mort. Enfin, les menaces de mort, même si on sait que ça ne va pas forcément être réalisé, au moment où on les reçoit, pour être une asso qui les reçoit, ça fait quand même flipper et on essaie de pas leur laisser, mais c'est quand même la réalité. Et ça fait aussi flipper les autres personnes donc qui sont pas autour de notre thématique mais qui se disent tiens, bah, qui sont autour de l'éducation ou de la jeunesse ou quoi que ce soit, qui se disent tiens, bah, ça serait pertinent de faire un truc autour des LGBTI, phobie ou de la discrimination, etc. Et qui s'inquiètent, en fait, qui s'inquiètent est-ce qu'on va être attaqué, qu'est-ce qu'ils vont faire si on dit qu'il y a enfants plus LGBT. Il y a même Rage qui a fait une soirée étudiante. Donc étudiante. Rage qui est un collectif pluridisciplinaire qui fait notamment du drag, enfin qui promeut la culture queer, le drag, mais aussi du rap, de la poésie, enfin un peu de tout. Et faisait un événement à la fac. Je veux dire, oui, c'est des jeunes adultes et on peut dire c'est des grands enfants, mais ils ont été attaqués en mode non, c'est la jeunesse. Et en mode bon, ils sont majeurs, est-ce qu'on peut nous foutre la paix une fois qu'on est majeurs?
Oui, nous, c'est vraiment ce qu'on voit sur la question des enfants, c'est qu'en fait, c'est la porte d'entrée de l'extrême droite. C'est que avoir comme slogan majoritaire par l'extrême droite, on est là pour protéger les enfants. Bah oui, en fait, c'est tout le monde veut protéger les enfants. Effectivement, ce sont des personnes vulnérables. Mais en fait, ce qui se cache derrière leur protection des enfants, c'est de venir petit à petit grappiller, de dire, OK, qu'est-ce qu'on définit comme enfant? C'est où est la barrière de l'autonomie? Et en fait, c'est venir limiter l'autonomie des personnes en renvoyant, bah, les enfants n'ont pas d'autonomie, donc n'ont pas accès à ces questionnements-là, ni les ados, ni les jeunes adultes. Et derrière, c'est toutes les questions d'autonomie corporelle, et y compris, par exemple, les questions d'IVG, les questions d'accès à la PMA, qui sont attaquées. Et voilà, nous c'est vraiment ce qu'on voit, et c'est aussi pour ça, et parce qu'on le comprend très bien, et parce que... l'extrême droite, ça fait des dizaines d'années qu'on lutte contre en France, et que les mouvements féministes et LGBT commencent à être organisés. Donc les discours, on les voit venir. Et c'est pour ça aussi, on le sait, que la mobilisation anti-transphobie du mois de mai a très bien pris et qu'elle a reçu un large soutien de l'ensemble du milieu LGBT, de l'ensemble des milieux féministes. Mmh.
Et on peut le dire, le rappeler, que les personnes concernées qui sont attaquées, que ce soit verbalement, physiquement ou quoi, une manière de se protéger, c'est de rejoindre des collectifs et de se souder et d'en parler et tout ça.
C'est ça. Bah, de toute façon, ce qui est important, c'est d'avoir des représentations, d'avoir des modèles, d'avoir du soutien, de se rendre compte qu'en fait, que ce qu'on vit, On n'est pas les seuls à le vivre. Donc, je pense que les groupes d'autosupport, notamment comme ANC ou comme certaines permanences du Gyrophare, sont essentiels. Parce que ce qu'il y a en jeu, c'est quand même la vie des gens. Et ça, c'est tellement souvent oublié qu'il y a un humain derrière tout ce que les gens projettent dessus. Il y a un humain qui a rien de penser, et qui souvent a déjà beaucoup plus de risques liés au suicide. Et quand en plus on lui dit clairement que sa vie n'a pas de sens et que ses choix ne sont pas des choix, mais ce qui l'emmène là, c'est le mauvais chemin, je vois pas quoi. C'est dur de lutter contre ça, donc heureusement qu'on a nos Adelphes.
Ça nous ramène tout doucement à la question de la fierté ou des fiertés et de ce festival des fiertés. Ça veut dire quoi pour vous ce terme-là de fierté? Qu'est-ce que vous y mettez, André, de l'assaut Ancre?
Le terme de fierté, donc, il est utilisé depuis les années, la fin des années 60 et les premières Pride aux États-Unis. Et je pense que moi, j'ai l'impression que presque sur ces peut-être 4-5 dernières années, on commençait à se dire, bon, la fierté, ça va, on a compris. OK, on fait les marches des fiertés, c'est super. Mais peut-être que ça commençait à avoir moins de sens politiquement parce qu'on voyait qu'il y avait des avancées. On savait qu'il y avait eu la PMA pour les femmes cis-lesbiennes, qu'il y avait eu le mariage pour tous, qu'il y avait eu certaines avancées encore insuffisantes sur les droits trans. Mais j'ai l'impression que voilà, là, on se retrouve face à la montée de l'extrême droite et qu'en fait, ce terme de fierté, il reprend tout son sens et on se rend compte à quel point c'est un terme politique puisque voilà, les attaques qui nous sont faites, c'est des attaques qui veulent montrer que les personnes LGBT seraient moins dignes de respect, auraient des vies dévoyées, des vies qui auraient moins d'importance. Et qui voudrait justement effacer nos existences, effacer nos vécus, nos histoires. Je pense que c'est vraiment le moment de remettre un aspect politique sur cette fierté, de dire, bah oui, on existe quoi qu'en pensent les autres, quelles que soient les attaques qu'on reçoit, nous, on existe et on continuera d'exister. Et donc, le porter dans la rue, c'est éminemment politique et c'est extrêmement fort.
Et André parle de politique, ça me fait penser, j'ai sous les yeux un supplément que Sud-Ouest a fait sur le mois des fiertés, qui parle notamment de Drag Race, qui est un show télé aussi qui parle du drag. Et qu'est-ce qu'il reste de... Comment dire, est-ce que ce phénomène politique et cette importance politique des existences des personnes trans, lesbiennes, gays, bi, etc., elle est bien médiatisée par Sud-Ouest, Drag Race, ce phénomène aussi médiatique qui arrive, est-ce qu'il permet de retranscrire cet aspect politique de vos luttes et de vos causes? Ou est-ce que là aussi, il y a du travail toujours pour faire passer ce qui est, à proprement parler, politique? Kurt?
Alors, du fait que nos existences... Le simple fait de se retrouver à la télé out, donc le fait d'être ouvertement LGBT à la télé dans des médias, ça fait que le propos sera forcément politique. Nos existences, elles sont politiques justement parce qu'on voudrait qu'elles soient privées. On demande souvent aux personnes LGBT d'avoir une vie privée. Et donc non, à partir du moment où c'est dans le domaine public et en plus sur des espaces médiatiques, c'est éminemment politique. Il y a bien sûr des niveaux de politisation, notamment dans le message. Mais pour reprendre Drag Race, qui est quand même quelque chose de diffusé au niveau national, donc sur la télé publique, on a des messages qui sont quand même assez forts. C'est de la pédagogie à travers du divertissement. Donc, moi, tant qu'il y a de la pédagogie, je suis en mode « Hourra !» Et on le voit, c'est des sujets... première saison, I égale I. Il y a tellement de gens qui ne sont même pas au courant vraiment de ce qu'est le VIH, de ce qu'est le sida. Et encore moins que si c'est indétectable, c'est intransmissible. Donc, que quelqu'un sous traitement ne peut pas... contaminer ça à son partenaire.
C'est ça que ça veut dire, I égale I, oui. Indétectable égale...
Intransmissible. Et ça, c'est un message qui est essentiel. Et c'est juste un petit moment, et ensuite, on a une paire qui a beaucoup de sens autour de ça, donc ça marque les esprits. Le nombre de personnes, le nombre d'alliés aussi que ça a créé, Nous, on a des gens au Gyrophare, donc, notamment suite au viewing, voir nos stands, etc., qui sont engagés au Gyrophare, qui en ce moment même sont en train d'aider quelqu'un en demande d'asile dans l'écriture de son récit. Alors qu'à la base, c'était du non, les centres LGBT, c'est trop politisé. Il y a souvent un peu une opposition, justement, entre centres LGBT, militants, etc., et les personnes LGBT en général. Il faut se rendre compte que, oui, en fait, tout est un spectre, comme le genre, comme la sexualité. Bah, le militantisme, c'est pareil. Il y a les gens qui militent en étant ce qu'ils sont ou en étant un peu des alliés. Et il y a ceux qui sont hyper radicales. Et je les soutiens tout autant. Hein. Mais voilà.
Et du coup, tout nourrit tout. Et c'est, voilà, y a une continuité et tout ça communique.
C'est ça. On a besoin de porte-parole, on a besoin d'avocats, on a besoin d'activistes. Enfin, on a besoin de tout.
Alors, le temps tourne, on va revenir peut-être aux événements qui arrivent. Donc, j'ai dit, il y aura la Pride le 1er juin, mais il y a aussi des choses d'ici là, dans les jours à venir.
Exactement. Ma petite sélection pour les jours à venir, vendredi 24 mai, de minuit à 5 heures. Donc,
c'est demain.
On est sur le basculement vers samedi. Il y a le Club O, qui est le premier club queer, donc ça sera à l'Espace DS. Je vous invite vraiment à venir, ça va être incroyable. On a également...
C'est quoi un club queer ?
Un club queer, c'est un club qui est safe. C'est un club où on n'a pas à se questionner. Donc attention avec le mot safe, parce que rien n'est assuré tout le temps à 100%. Je veux dire, là maintenant, on pourrait avoir un avion qui nous tombe dessus. Et pourtant, je me sens plutôt safe. C'est plutôt une question de ressenti et c'est ce qui est mis en place aussi. C'est le fait de briefer correctement les équipes. D'avoir une physio à l'entrée, que la majorité de la population soit queer, LGBT ou alliée, qu'il y ait des stands de sensibilisation, qu'il y ait de la communication autour sur le fait qu'il n'y aura aucune tolérance pour l'intolérance. Là, c'est très clair que s'il y a une déviation au niveau du comportement, une VSS ou quoi que ce soit, la personne sera sortie, il n'y aura pas de négociation à faire. On signale, on sort. Mmh. Et c'est des toilettes dégenrées. Enfin, c'est des tas de trucs qui, ensemble, font qu'on se sent bien. Et je pense que ça va se sentir au moment où on va rentrer dedans. Enfin, moi, je le sens bien.
Très bien. Donc ça, c'est demain soir, dans la nuit de demain à samedi.
Exactement. À l'Espace DS par Au Fantasme.
L'Espace DS, ça se situe où ?
Vers chez vous, vers Bacalan, vers Jouy-la-Garonne, je crois.
Très bien.
Et ensuite, à l'hôtel Raguenau, avec Macla, donc pour la semaine de l'Amérique latine, il y a une exposition qui s'appelle Muxis, le troisième genre au Mexique. Donc pareil, elle est très belle et elle est bien encadrée en termes de médiation culturelle. Et enfin, la veille de la Pride, il y a Bifort Pride, donc écrit avec des points médians, qui se passe à la Fabrique Paula. Et ça sera d'ailleurs l'occasion de la diffusion du premier épisode de cette saison de Drag Race. Donc voilà, double et des shows drag. Donc vraiment, ça va être hyper chouette et c'est à la Fabrique Paula, ça fait toujours plaisir d'y aller.
Super. Donc ça, c'est ce qui se passe avant la Pride. Et il y aura donc samedi 1er juin, c'est bien ça ?
Samedi 1er juin, on se retrouve à 13h, place des Quinconces, pour les prises de parole. À 14h, hop, on part dans la ville de Bordeaux pour militer, mais aussi danser, crier, se déchaîner, un peu expier tout ce qu'on subit toute l'année. C'est là où on relâche l'énergie et on fait force groupe. Et ensuite, on se retrouve à l'After Pride, donc au Parc aux Angéliques, de 17h à minuit. Et pareil, ça va être super chouette, il y a plein d'artistes, il y a des DJ sets. On a le cabaret Madame Arthur qui nous fait l'honneur de venir sur notre scène. On est assez content.
Il y a, si je ne me trompe pas, chaque année dans la Pride, il y a l'envie de mettre en avant certaines personnes, certains combats, peut-être des points d'attention aussi. Tu l'as dit, il y avait eu ce point d'attention au niveau de la sécurité depuis 2022. Comment vous abordez cette Pride cette année ?
Toujours avec une grosse attention sur la sécurité. Je pense que de toute façon, c'est essentiel pour toutes les Prides et encore plus après ce qu'on a vécu. Après, les gros points d'attention, forcément avec l'actualité transphobe, avec une initiative qui a été déjà démarrée avant même ça. André, je te laisse peut-être dire la nouveauté de ce cortège.
Oui, donc cette année, pour la première fois sur la Pride de Bordeaux, on organise un cortège trans, donc un espace au sein du cortège dédié aux personnes trans, aux personnes au questionnement, à leurs proches. Ce ne sera pas un espace en mixité choisie, c'est un espace ouvert à tous, mais qu'on a vraiment voulu baliser visible, parce qu'on sait que pour les personnes trans, les enjeux de visibilité, de communauté et de sortie de l'isolement peuvent être particulièrement difficiles. Et donc, on s'est dit que voilà, avoir un espace fléché sur la marche des fiertés, ça pouvait être très fort pour beaucoup de monde et permettre aussi aux personnes qui viendraient de repérer que les axos existent à Bordeaux, de se rendre compte qu'au-delà de la vision, de la visibilité qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, voir les personnes en vrai, ça permet aussi de se dire que peut-être qu'on va réussir à pousser la porte des espaces physiques. Voilà, donc on le veut comme un espace de fête, de rencontre.
On met toujours en avant le pôle demande d'asile, donc pour qui souvent c'est quand même un temps marquant de pouvoir justement être dans l'espace public, revendiquer leur lutte, alors même qu'il y en a beaucoup qui sont encore en processus de demande d'asile, donc qui est quand même une charge mentale énorme.
Ce pôle-là, c'est à l'intérieur du Gyrophare, c'est ça?
C'est ça, il est au sein du Gyrophare, et je pense que... Voilà, au niveau de du monde, ça n'a pas beaucoup évolué les lois, donc c'est essentiel de le mettre en avant, et c'est aussi essentiel de mettre en avant la convergence des luttes. Donc c'est, la Pride, c'est aussi l'occasion de dire que tout système de domination doit être évincé, brûlé, et on pense à la colonisation, on pense au sexisme, vraiment, on essaye d'être englobant et on invite vraiment toutes les personnes qui ont des messages qui sont en accord avec nos valeurs, c'est-à-dire le vivre ensemble et l'anticapitalisme et l'antipatriarcat, à venir nous rejoindre et à faire groupe.
Donc ça sera samedi 1er juin. Dans les 2-3 minutes qui nous restent, quelques autres événements de juin du Festival des Fiertés?
Alors, dans le Festival des Fiertés, on a la chance d'avoir notre QG à l'Espace Mably, donc au cœur de Bordeaux. Ça s'ouvre le 13 juin avec l'inauguration des différentes expos qui prennent place dans la salle capitulaire. Le lendemain, on a la soirée Bravo les lesbiennes avec La Foudre prend racine. On a notamment Camion Bip Bip qui sera présent avec nous. Donc ça va être vraiment chouette. Mais il y a une journée de parentalité queer où justement il y a Ancre qui fait un moment dédié aux transparentalités. On a des expos, on a des drag shows, on a des jeux, il y a des conférences, c'est hyper varié, c'est riche. Et on peut se dire qu'on se retrouve sur le week-end de clôture avec l'Orgia de Maison Éclose.
C'est quoi l'Orgia? C'est un spectacle de Maison Éclose qui est une maison de drague?
C'est ça, Maison Éclose, c'est la première maison de drague de Bordeaux et du coup qui a fait plein de bébés drague à Bordeaux et du coup qui est une énorme maison si on associe tout le monde.
Il faut réécouter la MIF pour suivre tout ça.
Yeah, exactement. Il y a quand même 4 épisodes tellement il y a d'enfants. Hein. Mais, et du coup, c'est une soirée hyper riche où il y a des défilés, il y a des créations, il y a des ateliers, il y a des shows, il y a des DJ sets. Et on a aussi l'espace QG qui est un peu là tout le temps sur le festival, mais qui sur ce week-end fait des ateliers zine, qui fait des goûters lecture. On a aussi des ateliers de DJing avec Miss New House. Enfin, vraiment, ça va être génial. Et le spectacle Trou aussi. On n'est pas ouvert le lundi, mardi. Mais vu que j'avais vraiment très très envie de programmer ce spectacle, qui a une vision presque... Enfin, c'est une voix d'enfant un peu brisée sur les VSS, donc c'est un trigger warning énorme, mais c'est poétique, et je pense que ce spectacle, il va nous faire du bien aussi, pour toutes les personnes qui subissent des VSS. Donc voilà, c'est le lundi 24 juin à l'Espace Mably. De toute façon, je vous invite à retrouver le programme sur le site du Gyrophare ou sur nos réseaux. Parce qu'il est très riche et qu'il y a plein de trucs. Il y a aussi des trucs hors les murs qui sont tout aussi chouettes. Donc,
Très bien. André, peut-être un coup de cœur, toi, de la programmation ou de l'activité aussi d'encre dans ce festival?
Alors moi, personnellement, mon asso préféré sur Bordeaux, ça reste et ça sera toujours l'Espace QG, qui est une bibliothèque queer et féministe, itinérante, et donc qui sera présente pendant les 15 jours à la Cour Mably, avec, j'imagine, des sélections d'ouvrages, et leurs sélections elles sont toujours extrêmement pertinentes. Ce sont des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, donc je vous invite à aller les rencontrer. Et si je peux faire un peu l'article pour ma propre asso. Yeah. Donc voilà, le dimanche 16 juin, on organise une journée en partenariat avec la Foot Prend Racine sur les parentalités trans, toujours dans cette idée de briser l'isolement, de créer du lien et que les personnes aient accès à des informations sur quels sont leurs droits en tant que parents et personnes trans. Et on sera aussi présent avec notre exposition pour dégenrer les corps et briser les clichés sur les corps des personnes trans durant les 15 jours à la Cour Mably.
Super, et ben merci beaucoup à tous les deux. Alors je ne l'ai pas dit, donc je vais quand même le dire, LGBTQIAP+, pour lesbienne, gay, bisexuel, trans, queer, intersexe, asexuel ou aromantique et pansexuel, le P, je ne l'avais pas
exactement.
Noté. Voilà. Merci à vous deux, André de l'Assaut Encre et Kurt du Gyrophare, d'être venus nous présenter tout ça. Et à très vite, du coup, dans les rues et les salles de Bordeaux.
Exactement. Merci, Baptiste.
Merci. Le torse devant les copains, mais au fond, t'es un bébé, un gros ouin-ouin. Ouin-ouin. S'évapore sur tes joues rouges qui fument, toujours en train de quémander mon hume. T'as toujours eu de la chance, mais ce soir plus aucune. La seule chose que tu chopperas, c'est en rhume. Wow, wow. Célibataire, destination Loserland, on dirait mon père. Pseudo alpha, le grand empereur de rien. Quand bébé à maman veut toujours téter le sein. Petit polisson, tu n'as pas retenu la leçon. Si personne ne veut t'écouter, alors pose-toi les bonnes questions. Insulter et parler fort ne t'amèneront nulle part. Une petite faveur pour moi, vas-y pleure, tu adores ça.
Voilà, c'était Camion Bip Bip avec ce petit club Ouin Ouin, Camion Bip Bip qui sera en concert le 14 juin dans le cadre du Festival des Fiertés. Et à 12h52 dans le plat de Résistance, on va terminer cette émission avec les clés des libertés qui nous sont données aujourd'hui par Amnesty International. Katia Roux, elle est chargée des technologies et des libertés à Amnesty et elle nous parle de la vidéosurveillance algorithmique et des dangers de la reconnaissance faciale. On l'écoute.
La vidéosurveillance assistée par intelligence artificielle, qu'on appelle aussi vidéosurveillance algorithmique, c'est un procédé technologique qui a pour objectif d'automatiser le traitement des images issues des caméras de vidéosurveillance. Aujourd'hui, à la faveur donc, des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la France vient d'adopter un cadre législatif, une base légale pour utiliser cette VSA.
Elles pourraient être les invitées les plus discrètes des Jeux Olympiques, des caméras dites intelligentes. Prévue par le projet de loi pour Paris 2024, elle permettrait de scruter les abords des futurs lieux de compétition comme le Stade de France ou la Tour Eiffel, mais aussi les transports en commun.
Concrètement, les algorithmes vont être entraînés à repérer des événements spécifiques, des événements prédéterminés. Et pour ça, ils vont avoir besoin d'énormément de données d'apprentissage, des données personnelles souvent, pour leur apprendre à reconnaître un événement. Ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être une situation. Et donc, à partir de là, le logiciel va produire des alertes, en réalité, dès lors qu'il aura reconnu l'événement pour lequel il aura été entraîné. Et donc, il va y avoir une notification auprès donc, des autorités qui vont recevoir sur leur écran une alerte du logiciel qui aura repéré l'événement qu'il aura été entraîné à déterminer. Ces technologies comportent des risques de discrimination, d'une part avec les données qui sont fournies pour entraîner les logiciels. Ces données-là peuvent être déjà biaisées, peuvent déjà faire l'objet de biais discriminatoires, c'est-à-dire qu'on peut déjà choisir quelles données vont entraîner les algorithmes. Et donc ces algorithmes vont amplifier ces biais discriminatoires. Donc il y a un risque qu'in fine, les personnes qui soient identifiées comme potentiellement suspectes ou les situations potentiellement suspectes automatisent en réalité ces biais discriminatoires. La deuxième chose, c'est que déterminer ce qu'est un comportement normal ou un comportement anormal, c'est aussi un choix humain, et ça peut aussi générer des discriminations qui, là encore, vont être amplifiées, automatisées par le logiciel. Dans le cadre de la loi JO, c'est problématique parce qu'on parle de comportements anormaux qu'il faudrait repérer. Ce n'est pas défini du tout dans le texte de loi. Le texte de loi parle d'événements prédéterminés. Dans les débats parlementaires, mais aussi dans l'étude d'impact du texte, on parle certes de colis abandonnés, on parle de mouvements de foule, on parle de comportements anormaux, plus difficiles déjà à définir. On parle aussi de situations présumant la commission d'infraction. Donc on voit là que c'est très très large et en réalité qui peut définir ce qu'est un comportement normal ou anormal? Est-ce que une personne qui se déplace différemment? Est-ce qu'une personne qui est statique trop longtemps? Est-ce qu'une personne qui tout d'un coup va partir en courant va être signalée comme comportement anormal et faire l'objet d'une alerte? Ça pose beaucoup de questions. Il n'y a pas que les JO en réalité qui sont concernés par ce dispositif. L'information du public est compliquée puisqu'en fait les images qui vont être utilisées, ce sont les images issues des vidéos caméras, des caméras de vidéosurveillance dans l'espace public, mais aussi des caméras qui sont installées sur les drones. Il sera aussi possible de les coupler donc avec la VSA, la vidéosurveillance algorithmique. Et donc là, l'impact en matière de vie privée est très grand. Pour autant, l'efficacité de ces dispositifs n'a pas été démontrée. Il y a une tendance des pays, des États à recourir à ces technologies comme étant effectivement les solutions, on va dire, faciles pour lutter contre le terrorisme et contre la criminalité. Et bien souvent, à l'été, quand on passe cette marche, on ne la redescend pas. Et ça ouvre souvent la voie à l'utilisation de technologies toujours plus intrusives. Garantir la sécurité de ce type d'événement, d'un grand événement sportif comme les JO ou d'autres, c'est un objectif légitime en soi. Mais il appartient au législateur de faire la démonstration qu'il n'y a pas de moyens moins attentatoires aux libertés pour atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, on ne nous a pas prouvé, en réalité, que ce soit le gouvernement ou les députés ou les sénateurs qui ont soutenu ce texte, qu'il n'y avait pas d'autres moyens qui impactent moins la vie privée, qui impactent moins la liberté d'expression, qui impactent moins la liberté de réunion pacifique, qui ne pourraient pas être suffisants, en réalité, pour garantir la sécurité des JO. Ce projet de loi donc, sur les JO 2024 a été adopté en procédure accélérée, sans qu'il y ait véritablement de débat public et politique, dans une actualité qui était extrêmement chargée. Un texte de loi qui va avoir des impacts très très grands et sur plusieurs années probablement, a pu être adapté sans réellement que le public sache de quoi il était question et se rende compte de l'impact sur les droits et les libertés fondamentales. Avec l'adoption de cette loi, la France en réalité devient le premier pays de l'UE à légaliser, créer une base légale, certes expérimentale, mais tout de même de la VSA. Au moment des débats parlementaires, une quarantaine de députés européens ont interpellé leurs homologues français pour leur demander de ne pas adopter ce dispositif, de rejeter l'article 7, parce que ça allait créer un précédent au niveau de l'Union européenne, parce que potentiellement ça allait violer le futur règlement de l'UE sur l'intelligence artificielle, mais aussi parce que quelque part ça envoyait un signal au monde entier et aux autres États qui voudraient utiliser cette technologie contre leur population, un signal de « vous pouvez le faire ». Il y a ce sentiment, on va dire, assez diffus que finalement c'est pas si grave d'utiliser ces technologies de surveillance, finalement j'ai rien à cacher, si ça peut aider à lutter contre le terrorisme, finalement voilà, ma vie privée en face c'est pas si important. En réalité c'est central, ce sont les libertés fondamentales, ce sont les libertés d'expression, de réunion, peut-être d'association, la vie privée, le droit à la vie privée, ce n'est pas que des immixtions arbitraires dans sa vie privée, c'est aussi la manière dont on contrôle le partage de nos données personnelles. C'est aussi le fait d'avoir un espace privé où on peut affirmer son identité propre. Tout ça, c'est extrêmement important. Et si, petit à petit, ces libertés sont grignotées, on va se retrouver effectivement avec une société où il est de plus en plus dur de s'exprimer, de plus en plus dur de se mobiliser. Et ça nous concerne tous. Il est important que chacun et chacune à son niveau se pose la question du besoin d'utiliser ces technologies de surveillance, mais aussi de l'impact sur les droits humains, sur les libertés fondamentales. C'est pas anodin. En réalité, cette ingérence dans la vie privée, ça peut effectivement avoir des effets au long cours sur l'exercice de beaucoup d'autres droits. Et donc, il faut pouvoir effectivement interpeller nos dirigeants, nos représentants sur cette question. Par ailleurs, à Amnesty International, on restera extrêmement vigilant et mobilisé sur la mise en œuvre de cette loi, puisqu'elle va concerner un certain nombre d'événements. Et on alertera à chaque fois qu'on estime qu'effectivement, il y a eu des abus.
Voilà, merci beaucoup à Katia Roux d'Amnesty, chargée des technologies et des libertés, pour cette chronique extraite d'une vidéo publiée par Amnesty International que vous pouvez retrouver sur le web et qui s'intitule « JO 2024, allez-vous être surveillé ?»